Qu'est-ce qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Alors le qu'est-ce qu'on déguste de ce soir est un peu à épisode. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Rémi, illustrateur de son état, nous revenait du salon Millésime Bio, voilà, qui s'était tenu du côté de Montpellier, et il nous avait ramené quelques bonnes bouteilles. Nous avions passé quelques coups de fil à des producteurs de vin, et dans le lot, il n'y avait pas que des producteurs de vin, puisqu'il y avait un restaurateur, Daniel Fols du Croque-Chou. Le Croque-Chou, c'est dans un petit village pas très loin de d'Avignon. Et il se trouve que Daniel a un fils qui s'appelle Rémi. Il y a trop de Rémi dans cette émission, ça va pas aller, hein, les gars. Qui est d'ici, du Tarn-et-Garonne, il est de Cazemont-Denard. Et il fait du fromage de chèvre bio. Voilà, et donc comme Daniel vient régulièrement dans le Tarn-et-Garonne pour faire ses courses, hein, en quelque sorte, il va directement chez les producteurs. Et puis après, il repart là-bas, un petit peu plus à l'est. Eh ben, on a dit, bah tiens, puisqu'il est dans le coin, faisons connaissance. Venez donc, chers amis, faire connaissance autour de quelques bonnes bouteilles et de quelques bons fromages bio. À qu'est-ce qu'on déguste? Et si j'ai bien compris, il y aura même quelques bières bio de la Ratz de Cahors. Mais bon, on va faire le tour de tous ces bons produits que nous a ramené Daniel dans quelques instants. Pour accueillir Daniel et Rémi Fols, Pascal Olivier, qui a le dos complètement coincé. Bravo, belle performance d'être ici.
C'est pas mal, hein?
Parce que tu dois déguster.
Je déguste, vraiment, qu'est-ce qu'on déguste?
Ça va?
Ça va, non, ça va. Ça
au programme
va.
Aujourd'hui?
Ben, on va faire, je vais recycler des choses que j'ai pas pu dire les semaines précédentes, donc le mot videlé, parce qu'on en a pas parlé. Et puis on va faire un fond brun.
On n'avait pas parlé du mot videlé.
Non. Ce qui est marrant avec Pascal, c'est qu'il a toujours des trucs à dire, ouais. Malgré tout ce qu'il dit déjà.
Ah, ben oui.
Le professeur a toujours,
quelque chose à dire.
Bah tiens, puisque tu as la parole, mon cher Gaël.
Bah, en cette période un peu hivernale et de fraîcheur revenue, on va parler des Oreilles Rouges, qui est à la fois donc un groupe qui fait de la musique essentiellement pour les jeunes, et on réalisait aussi une bande dessinée qui a été dessinée par Christophe Sénégas.
C'est encore le groupe de Guillaume Boutevillain, non?
C'est ça.
C'est ça.
Ouais.
Bah voilà, on écoutera ça du coup. On écoutera du jazz aussi, Georges. Salut.
On écoutera du jazz. Bon, j'avais prévu une interview aujourd'hui, mais les musiciens sont sur les routes et sont en train de jouer, ce qui est une bonne chose.
Donc sur les routes et en train de jouer en même temps, c'est ça, les jazzman maintenant, c'est
ils sont à fond.
On the road. Ouais.
Alors du coup, j'ai choisi un crooner canadien, c'est Michael Bublé, que l'on écoutera tout à l'heure.
D'accord.
C'est la jeune génération.
Ouais. Et ben voilà, c'est qu'est-ce qu'on déguste, et ça commence comme ça. Normalement, là, on a les verres qui se remplissent. Ça y est, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on dégraissera la bière, moi, je trouve, plutôt. Tu vois, voilà, on démarre, par exemple, je sais pas, un petit blanc, là, c'est ça?
Oui.
Voilà.
Tu te lèves ce matin à genoux. Tu te dis que c'est fini, que tu te fous de tout. Que même les rayons du soleil t'ignorent. Que c'est le monde entier qui veut ta mort. Mais dis-toi que tu as tort. Tu ouvres les volets et le ciel gris te rappelle que le jour d'hier sera comme aujourd'hui. Tu te traînes comme un serpent qui dort. Tu ne vois plus l'amour qu'il peut y avoir dehors.
Parce que je t'ai jamais dit par cœur.
Grenache blanc, pitbull, vionnier, tout en biodynamique.
Dis-toi que
ils ont une propriété où ils vivent presque en autarcie dans le système biodynamique. Ils sont au milieu de leur vie.
J'ai envie que tu existes et que tu me souris. Je ne te laisserai pas, je ne t'oublierai pas. Je serai là pour toi, et si tu ne me crois pas, alors dis-toi, dis-toi que tu as tort. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Alors dis-toi, dis-toi.
Voilà un artiste certainement pas connu ni reconnu comme il le devrait, mais je pense qu'il va énormément compter. Ça fait quand même quelques années que Prohom compte hein, sur la scène, mais plutôt underground. On n'entend pas parler ni à la télé, ni trop programmé dans les playlists de radio. Il vient de sortir un autre album, Un Monde pour Soi. Nous, on le suit depuis ses tout débuts. J'aime beaucoup ce rock électro avec du vrai bon texte. Prohom sera notre invité d'ailleurs dans PCV très prochainement. Alors, Pascal Olivier,
oui.
Est-ce que tu pourrais nous situer le petit village où il y a le croque-chou?
Pas du tout.
Merci Pascal.
Pas du tout. Je crois que
va vers Verquières.
Il va comme Daniel va peut-être nous expliquer où c'est.
Alors Daniel.
Alors, c'est pas très compliqué. Hein. On est au sud d'Avignon, entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence. On est le nord des Bouches-du-Rhône. C'est un tout petit village de moins de 800 habitants, avec une église au clocher classé 11e siècle, juste en face du restaurant. C'est-à-dire, lorsqu'on est sur la terrasse.
Tu es place de l'église.
Je suis place de l'église. Allez, disons-le. Avec un grand parking, on peut venir très nombreux. Il y a moyen de se stationner.
Et pourquoi ce village-là, plutôt qu'un autre?
Parce que lorsqu'on a cherché une seconde affaire, on avait une première affaire quand on a quitté Metz parce qu'on est lorrain d'origine. On s'est installé dans le Gard, on avait un hôtel-restaurant assez important. Et au bout de 4 ans, on était un peu fatigué d'hôtel-restaurant. Et c'est notre fils, mon fils qui est en cuisine.
Stéphane.
Sébastien qui est en cuisine et on avait une cuisine toute petite. C'était une affaire qui n'était pas prévue pour faire vraiment de la grosse cuisine et de haut niveau. Donc très peu de place pour stocker du frais, parce qu'on travaillait déjà que du frais. Et on a cherché autre chose. Donc on a cherché, on s'est éloigné un petit peu. Et finalement, on a atterri à...
Au soleil.
À Verquières. On a atterri à Verquières.
Qu'est-ce que c'est, Pascal, un bib gourmand Michelin? Qu'est-ce que c'est?
Un bib gourmand Michelin. Ouais. Décidément, je passe à la casserole, là, aujourd'hui.
Mais enfin!
Un bib gourmand Michelin, ben, c'est décerné par le guide Michelin, et ça fait partie. Alors, c'est pas une étoile, c'est pas un macaron. C'est un bib, donc bib, comment ils disent, belaig, du belaig,
Inbox.
Inbox, voilà. Belaig, château belaig, c'est nos amis.
Spécial dédicace
voilà.
Au château belaig.
Guillaume, Séverine Guillaume et Guillaume, donc et qui sortent aussi le bib, donc le belaig in bag ou inbox.
Ouais.
Et là, le croque-chou, il y a un bib gourmand.
Oui.
Donc ça fait partie des bonnes adresses retenues par le guide,
prix,
voilà,
oui,
par le guide Michelin.
D'accord. Et alors, les produits qui sont travaillés donc par votre fils sont bio?
Entièrement.
Ouais.
Entièrement.
Ça, c'est un choix que vous aviez déjà en Lorraine ou c'est arrivé là que...
Bio et local.
Et local, le maximum, parce qu'on peut faire hein, en fonction de la saison et de ce qu'on a besoin pour travailler, quoi. Ça ne nous empêchera pas d'aller chercher du homard breton ou des choses comme ça, quoi. Mais on essaye vraiment d'être le plus proche possible pour les fournisseurs, quoi. C'est notre éthique. À l'origine, dans notre famille, on a toujours eu notre jardin, on a toujours cultivé notre jardin. Donc on a toujours eu un petit peu ce côté terre, quoi. Et en essayant d'être le plus propre possible, quoi.
C'est le principe de l'honnête homme de cultiver son jardin.
Tout à fait. Et donc, c'est un chemin qu'on a suivi naturellement. Qu'on a mis en place un petit peu longuement parce qu'il fallait trouver les fournisseurs. Il y a maintenant, on est passé en bio il y a maintenant 5-6 ans. Donc il a fallu un petit peu s'habituer au secteur, trouver les produits qu'il fallait.
C'est pour ça que vous êtes allé au salon Millésime Bio, entre autres. C'est là où vous faisiez vos courses la dernière fois. Là.
Les courses pour le vin, quoi.
Ouais,
et
pour
puis
le vin,
le fait de rencontrer les amis vignerons qu'on peut pas toujours aller voir directement et puis goûter les nouveaux millésimes. Tout le monde est là, c'est le marché, quoi, en quelque sorte. Hein. Tout le monde est là sur place pour pouvoir goûter. Hein.
Bah justement, qu'est-ce qu'on déguste là ?
Eh ben on déguste justement de mes amis du Gard, Agnès et Denis Armand du Mazespanais. Il se trouve à Saint-Mamère-du-Gard, nord-ouest de Nîmes, dans des vignerons qui travaillent tout en biodynamie, avec un respect de la terre énorme, et dans la même éthique que le croque-chou, en quelque sorte. Et on est sur une cuvée, un blanc, éolienne 2011, qui est à base de grenache blanc essentiellement, avec un peu de pique-poule et un petit peu de viognier, qui apporte le côté un petit peu fruité du vin qu'on est en train de déguster.
Et bio, évidemment.
C'est bon,
tout en biodynamie, tout à fait. Ouais, il y a une belle fraîcheur, belle fraîcheur. Et
petite acidité, c'est pas trop aromatique.
Ça se boit très bien.
Donc on va goûter ça avec des fromages de chèvre.
Ah oui, des fromages de chèvre de Capribio. Capribio, c'est à Casemont-Denard.
À Casemont-Denard, oui, sur la route de Castelnau-Moratier.
Vous avez un film qui est projeté ce soir, La part des anges, dans votre bibliothèque.
Ah oui, d'accord.
Je conseille d'aller voir ça. Très beau film sur le whisky. On déguste du whisky dans La part des anges. Un petit peu de jazz, peut-être. Et puis après, on va faire connaissance justement avec Rémi.
Alors, j'ai choisi aujourd'hui Michael Bublé. Bon, c'est un jeune Canadien. Il est né en 75. Bon, il est tombé amoureux du jazz parce que son grand-père, qui était d'origine italienne, a écouté beaucoup de musique de jazz. Il lui a fait connaître un petit peu cette musique. Il adore jouer les standards. Il a rencontré la maison de production Warner lors du mariage de la fille du premier ministre canadien, pour laquelle il faisait une animation le soir de son mariage, et du coup il est parti directement dans le Star System et il vend des disques dans le monde entier. Là, nous l'écoutons sur un très gros classique du jazz qui s'appelle Fever. Never know how
much I care. Chin chin. When you put your arms around Tante. Me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Tante. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, man. I'm gonna treat you right, you give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever through the night. Everybody's got a fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Whoa. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. With his kisses, fever, with that flame in youth. Fever, I'm a fire of fever. Yeah, I burn for sugar. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, said, Daddy, oh, don't you dare, it gives me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm here to miss it. Daddy, won't you treat him right? Listen to my story.
Here's the point that I have made.
Interprété entre autres par Ray Charles, là interprété par Michael Bublé.
Tu disais, Georges, parce qu'on t'a pas entendu, le micro était à moitié ouvert. Vas-y.
Alors, Fever, le standard de Peggy Lee, qui a été interprété entre autres par Ray Charles, a été interprété par Michael Bublé, le chanteur canadien.
Voilà, moi j'aime bien ce moment-là de l'émission parce que on rentre dans le vif du sujet. On a déjà les verres qui sont pleins, on a du pain bio qui nous est offert aujourd'hui par nos amis de chez Biosol à Montauban, oui. Il faut le dire au passage.
Un pain de petite épeautre et un pain intégral.
Et ce qui nous permet de mettre ça, de créer une sorte de petit socle, tu vois ce que je fais immédiatement là. Ah, hop, un petit socle pour le fromage de Capri Bio de Rémi. Alors, Falls, pardon, hein, Falls. C'est de quelle origine Falls? F-O-L-Z.
C'est Sarrois. 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 Oui. Donc c'est la partie allemande, mais c'est l'ouest de l'Allemagne, vraiment l'ouest. D'accord. Qui touche Luxembourg et la Lorraine.
Alors, un mot peut-être sur la Falls Family, parce que j'ai l'impression que tout le monde est dans les métiers de la bouche ou dans la convivialité. Présentation de la famille par le papa, peut-être,
oui,
Daniel.
Donc, le plus grand, c'est Sébastien, qui va avoir 33 ans, qui a annoncé, lorsqu'il était en classe de 5e, à ses parents professeurs, la maman professeur d'anglais et le papa professeur de musique et dessin, qu'il voulait être cuisinier. Bon, un petit peu la surprise des parents en disant t'as pas trouvé autre chose comme boulot, cuisinier c'est un truc de ouf, c'est du boulot, c'est du machin, puis t'inquiète pas, on n'aura pas les moyens de te payer un restaurant, hein. Tu vas toujours être larbin partout, mais
c'est bon, bien, ils sont encourageants les parents.
Le gamin a insisté.
Va falloir que tu te démerdes, mon gars.
Je veux faire cuisiner.
Le gamin a insisté. Bon, il a bien raison, je pense. Et on lui a dit, bon, d'accord, mais tu ne fais pas simplement un CAP. Tu vas faire un bac de technologie culinaire. Si jamais un jour ça ne te plaît pas, au moins tu pourras faire autre chose. Parce qu'il était intéressé aussi par la biologie, des choses comme ça. Et puis finalement,
ça allait chez Spanghero.
Oh, le pauvre Spanghero. Donc, il a fait le lycée hôtelier à Metz, seconde première terminale, avec de nombreux stages. Il partait, il est très voyageur, hein, notre grand fiston. Hein, il en va rouille tout le temps, dès qu'il peut, il s'en va. Et voilà, donc il est parti après son bac techno. Il a fait une année de cuisine de haut niveau, toujours au même lycée. Et donc avec des stages, il est parti en Irlande quelque temps. Il voulait absolument partir aux États-Unis travailler avec.
Par exemple, il faut apprendre à faire des hamburgers. Hein.
Oui, ben c'est un petit peu. Il en est revenu quoi, parce que il était chez Chef de France, une grosse entreprise sur le site de Disney à Epcot Center. Et c'était vraiment de la chaîne quoi. C'était l'usine quoi. C'était l'usine. Et lorsqu'il est parti, il avait donc 19 ans. Je lui ai dit, écoute, il se peut que lorsque tu rentres, on ait changé de métier. Moi, j'avais plus envie de rester prof de musique. Au bout de 25 ans, j'allais
m'acheter. Ça change les élèves, hein. La flûte,
oh,
tout ça.
Vous
tout
savez,
le temps,
c'est... Je vais peut-être pas être gentil avec mes ex-collègues, mais c'était pas les élèves les plus pénibles à supporter.
Attends, on avait le ministre de l'Éducation en Tarn-et-Garonne aujourd'hui.
Ah bon? Oui, ben le pauvre, il a du pain sur la planche. Donc, il est parti aux États-Unis et au bout de 7 mois, moi j'avais trouvé une affaire. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu fais comme tu veux, ou j'embauche un cuistot le temps que tu rentres, ou tu viens. Il m'a dit, papa, j'en ai assez des Américains. Allez,
déjà, le père a aucune parole. Je t'offrirai pas un restaurant, tu n'auras pas, machin, allez, reviens, tiens, je t'ai payé un resto.
Ouais, mais bon, hein, c'était payé le resto, mais fallait bosser, hein. C'est une grosse affaire qu'on avait repris et il y a eu du travail, quoi. Il y a eu on a eu un moment de folie, hein, quand vous changez de vie comme ça, il y a toujours une.
Ouais, ça doit pas être évident parce que on peut rêver sa vie d'ouvrir un resto, hôtel resto, machin. Quand on se trouve face à la réalité de l'action, j'imagine que vous avez dû passer quelques nuits à pas dormir beaucoup.
C'est certain. Hein? Bon, c'est toujours le dernier pas, quoi. C'est là où on se jette un petit peu dans.
Vous l'avez fait comment à trois? Est-ce que Rémi ici présent s'y est mis au départ ou non? Parce qu'il était tout jeune.
J'étais jeune, moi. J'avais 16 ans.
Ouais, d'accord.
Lui, à ce moment-là, sa passion, c'était le rugby.
Là, j'ai 28 ans.
C'était le rugby, sa passion à ce moment-là.
Ouais. D'accord.
Et puis donc, voilà, on s'est installé comme ça. Rémi, donc, dans le rugby pendant longtemps.
Dans le rugby. Bah,
j'ai touché le haut niveau de près parce que j'ai fait un pôle espoir à Paris. Donc j'ai fait une année. Ça s'est pas très très bien passé parce que j'étais peut-être trop assidu à l'entraînement et pas assez à l'école.
D'accord.
Ah, oui, la partie.
Je me suis coupé l'herbe sous le pied tout seul.
Ouais, voilà. D'accord.
Et donc moi je suis arrivé avec eux dans le sud-est où j'avais un bon club de rugby malgré tout et je suis resté là-dedans mais j'ai bien vu que j'en ferais pas mon métier. Et que il fallait que je trouve autre chose et
sa passion.
Et j'avais une autre petite passion qui était moins prédominante que le rugby, mais c'était l'agriculture parce que j'allais travailler chez mon cousin qui a une exploitation, qui avait une petite exploitation.
Vraiment la famille, hein, c'est la mafia, voilà. La mafia folle.
La mafia de la terre, pardon. Et donc j'allais travailler chez lui l'été et ça m'a toujours plu, mais étant d'abord sportif, je voyais d'abord le côté sportif. Et quand il m'a fallu faire un choix, que je voyais que le sport ne rapporterait pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Donc, en ce qui me concerne, ben, j'ai choisi l'agriculture.
D'accord. Puis ça reste sportif, à l'extérieur, sportif, voilà, surtout, surtout avec des chairs, il faut courir après.
Il joue toujours. Hein.
Ouais.
J'arrive toujours à jouer au
rugby. Où c'est, dans quelle équipe vous jouez?
À l'Honneur de Cosse.
À l'Honneur de Cosse. Oula.
OSCH.
Oula. Les troisièmes mi-temps sont réputés à l'Honneur de Cosse.
Tout
à
fait.
Ah, le club de l'Honneur de Cosse, c'est des.
Des bons vivants, oui.
C'est des bons vivants, c'est sûr.
Il reste encore une fille, oui.
Et dans la vigne.
Qui a bourlingué à gauche à droite, dans la médecine, l'infirmière, etc. Et puis finalement, moi à l'époque, j'avais dit, moi, je pense que tu goûtes très bien le vin, t'as un très bon nez, tu goûtes tout ce qu'il faut, il faudrait que tu t'orientes vers les métiers du vin. Mmh. Bon, on m'avait envoyé promener, la gamine à l'époque me dit... Le métier du vin, il est fou.
C'est un peu votre tour. De vous faire engueuler en même temps.
En plus, c'est un milieu super macho. Faut avoir envie quand
t'es. Elle m'a dit non, tu rêves, tu crois parce que toi t'aimes ça, que moi je vais aimer ça, etc. Donc elle a un petit peu voyagé à gauche, à droite. Et elle est revenue, là. Et elle a décroché l'année dernière un BTS de Vitivini. Et elle est en train de faire une formation complémentaire.
Vitivini Vici.
Un peu ça. Il y a un vigneron qui fait ça.
Oui.
Et donc, maintenant, elle est dans le vin, vraiment dans le vin, jusqu'au
cou,
jusqu'à la bouche. Et donc, elle fait une formation, une licence de marketing du vin. Et puis, elle veut continuer un petit peu sur tout ce qui tourne autour du vin avant de éventuellement s'installer. Mais dans le vin, quoi. Elle goûte très bien.
Et pour devenir sommelière au Croque-Chou.
Pourquoi pas.
Hein, voilà. J'ai toujours pas réussi à savoir ce qu'on est en train de manger. Ça y est, moi j'ai fini de manger le premier là.
Oui, mais il y avait
alors,
du choix.
Rémi.
Il y avait du choix.
Voilà, qu'est-ce que c'est que ce plateau de fromage? Donc je rappelle, toi ta ferme c'est Capri Bio.
Ah oui, moi je suis
salarié. Et c'est à Cazemont-Denard.
Voilà. Je suis salarié sur une exploitation où je m'occupe d'un troupeau de chèvres de 180 chèvres. En race alpine, c'est les marrons. Je sais pas si vous voyez un peu. Pour situer.
Alpine Renault, je vois bien.
Alpine Renault, non, bon, alors c'est pas tout à fait ça.
C'est des chèvres.
Vous avez deux grandes races laitières, en fait, en France, en général. Vous avez la Sanane, qui est une chèvre toute blanche.
Ouais, voilà. La blanche, je vois bien.
Voilà, toute blanche. Et vous avez l'autre qui est marron.
Celle qui a un petit trait noir,
noir
sur le dos.
Sur le dos
là.
Et voilà. Les pattes noires, voilà. D'accord. Comme des bottes. Voilà. Donc, on a 180 chèvres à Cazemont-Denard et on est, moi, je m'occupe donc du troupeau, donc de la traite, de m'occuper de l'alimentation.
Et comment on traite 180 chèvres? On a un petit robot,
on a une petite salle de traite.
Non,
on a une petite salle
de
traite. Non, nous, on n'a pas un manège. On a une salle de traite avec deux quais classiques. Ça fait 35 places.
D'accord.
Donc, on traite entre 1h et 1h30 le soir et le matin. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a traité, ben, c'est là que la partie rigolote, entre guillemets, commence, où il faut transformer le fromage. Enfin, du moins, transformer le lait en fromage.
Ah ben ça, on va en parler, mais on va en parler après. D'abord, un petit peu de musique. Il nous reste deux minutes. Moi, j'aimerais bien écouter un peu de musique parce que ce soir, alors c'était hier soir, hein, si vous nous écoutez le samedi matin, c'est la rediff là. Et hier soir, au Rio Grande à Montauban, il y avait un très très chouette concert.
Bah oui.
À l'heure où je vous parle, comme dirait dans la presse, à l'heure où nous écrivons ces lignes, il y a 350 préventes. Donc ce soir, je pense que il devrait y avoir quelque chose comme 450 ou 500 personnes, peut-être plus,
ça
si vous aussi
ouais,
vous vous
plein.
Déplacez pour aller voir
bouger,
Eiffel. Hein. Et puis surtout, si vous y allez à l'heure. C'est-à-dire ouverture des portes 20h30, parce que en première partie, il y a les régionaux de l'étape et ils sont très sympas. Notamment le 4 noir avec son chanteur qu'on aime beaucoup ici, Stéphane Vendetti, qui lui aussi est un cuistot. Clin d'œil. Mon cœur manifeste l'infra-monde.
comme ça.
Ah ouais, j'aimerais bien un petit peu ceci. On change. Attends, je finis la variation. Attends, je lance les infos.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite dans quelques instants.
CFM à Moissac. Moissac. 90.7. 90.7.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Alors vous prenez le train en marche, je vous explique, on a avec nous autour de la table Rémi Fols et son père, Daniel Fols, la famille Fols s'occupe de vous nourrir convenablement bio d'un côté grâce à un restaurant qu'ils ont qui s'appelle le Croque-Chou, et si vous allez du côté de Nîmes par là-bas, Avignon... Le bled s'appelle, pardon,
Verquière.
Si vous allez à Verquière, eh ben vous irez manger dans un restaurant qui a quand même eu un bib au guide Michelin en 2012. Et évidemment, vous boirez que des bonnes choses. Nous, on est en train de déguster ce que nous a apporté Daniel et Rémi. Donc Rémi qui, lui, est fromager,
chevrier.
C'est toi qui fais le fromage ?
Non, pas vraiment. Non. Moi, je m'occupe de toute la partie avant.
D'accord. Voilà. On va continuer d'en parler. On va parler de ces fromages, de ce plateau de fromages et de leur nom que tu nous as apporté. Rémi nous a rejoint. Rémi, l'illustrateur montalbanais.
C'est beau, merci.
Ça débouchonne à Paris,
ça débouchonne chez nous.
Voilà.
Mais écoute, moi j'ai écouté l'émission dans la voiture et je me suis dit deux Rémi sur un plateau à Montauban. Qu'est-ce qui se passe? Donc de suite, c'est ce que j'ai fait. Très vite, j'ai appelé le Guinness Book des records, donc il devrait arriver là. Parce qu'on est trois Rémi sur un plateau en France, voire dans le monde, je pense que ça s'est jamais vu. Donc oui, nous risquons de battre le record du monde ce soir. Et surtout, je suis venu voir donc Bioman.
Ça va s'arroser,
Daniel, voilà.
Merci d'être là. On est toujours avec Pascal Olivier, Georges Bonfils, Gaël. On a une question très très simple, mais il faut que je le prenne en traître pour que ça marche pour Pascal Olivier juste après ça. Ça fait longtemps que j'ai pas trinqué dans cette émission, à la vôtre. Ah non, mais ça c'est... She said she don't want no young man, cause young man drink too much white rum. She said she don't want no soul man, cause soul man falls asleep in bed. She said she don't want no dreadlocks, cause dreadlocks smoke too much eyelid. Sada ring on what the young girl want. Sada ring. Sada ring on what the young girl want. Sada ring. Check it out, the young boy back on the scene. And when you check it out, the young boy is on the scene. And the dreadlocks ain't getting at the groove. While the old man is watching the move, then this old boy is starting to move. Sada ring on what the young girl want. Sada ring. Sada ring on what the young girl need. Sada ring. The young girl want sada ring. Sada ring of what the young girl need. Sada ring.
Donc
ça c'est pas un bourbon.
Non,
ouais.
Non, c'est pas un bourbon.
Ce n'est pas un
bourbon. Non. Avec le chef, c'est super bon.
Henri Milan, rien à voir avec
les éditions.
Les éditions.
Non, rien à voir avec les éditions. À l'origine, c'est toute une grosse famille de notaires de Saint-Rémy-de-Provence. Et lui, c'est le petit canard boiteux qui a repris les terres que le papa va acheter pour...
Il est bon, mais il est court, tu vois.
Tiens, t'as goûté à côté de toi.
She said she don't want no dreadlocks, but dreadlocks jumping at the white drum. Sada ring on what the young girl want. Sada ring on.
Stanley Beckford, il est chanteur, il est guitariste, sa musique c'est le mento et c'était Soldering. Mon cher Pascal Olivier, pourquoi le lait qui sort du pied de la chèvre devient à un moment un succulent fromage comme celui qu'on est en train de déguster? Explication chimique et biologique.
Ben, le lait, on l'attrape, il sort du pied, on l'attrape, on lui sert bien le kiki. Et puis, dans une salle avec une bonne température, donc dans les 20 et quelques degrés, 22, 23, quelque chose comme ça, on y met de la présure.
Qu'est-ce que c'est?
Des ferments lactiques. Et le ferment lactique...
Ben, ça vient d'où le ferment lactique, ça, c'est quoi?
Ça vient de l'intestin du veau, de la caillette du veau.
La caillette du veau. Oui.
C'est des trucs que t'as
des enzymes.
Alors des fois c'est du cheval, des fois c'est du veau.
Non mais c'est des trucs que t'as dans les intestins.
C'est fourni par
qui font cailler en fait.
Non c'est voilà.
C'est fourni par Spangueron.
Non attends, je vais être sérieux parce que donc ce sont des enzymes que normalement on retrouve dans l'estomac qui servent normalement à
ensemencer la flore intestinale. Et donc on s'en sert pour on met ces ferments lactiques dans le lait et le lait va se transformer par miracle en matière solide d'un côté et en petit lait de l'autre. Le petit lait sert à nourrir les cochons
par exemple.
Et le fromage, eh ben là on les goûte une fois qu'il est emprésuré, donc on peut les goûter à la louche, on l'attrape à la louche ou alors on peut le battre, en fait il y a différentes recettes. Donc c'est pour ça que par exemple un camembert, il peut être moulé à la louche. Donc on prend ce fromage, ce caillé, ça s'appelle du caillé, on le prend, on le met dans des moules et on le laisse égoutter parce qu'il y a beaucoup d'eau, c'est le petit lait. Et après le fromage, eh ben petit à petit, l'eau va s'évaporer, l'eau va déjà couler, ça va s'évaporer, ça va se fabriquer, se faire, etc. Et là, on a du fromage.
J'ai fait du fromage de chèvre. Il est bon, hein.
Mais j'ai fait du fromage de chèvre pendant 4 ans. Alors je connais le truc.
C'était très bien
même.
Expliqué. Oui, il faut quand même l'excuser parce qu'il tout à l'heure il avait l'air quasi mort. Et c'est vrai que là de parler d'un ça l'a un petit peu réveillé. Mais c'était bien.
J'ai fait du fromage de chèvre, donc je sais ce que c'est. J'ai très à la main. Ça pue quand même. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, ça renarde un peu.
c'est le vin qui l'a requinqué, là.
Ouais, je crois. Il est bien ce petit vin. Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de boire?
Tu as gardé les bouteilles.
Daniel, qu'est-ce qu'on est en train de boire?
Là, on est sur un grand blanc 2009 d'Henri Milan à Saint-Rémy-de-Provence. Alors Henri Milan, c'est mon, comme je dis toujours à mes clients, c'est mon voisin, ami, vigneron le plus proche préféré. Parce qu'on est, on s'est rencontrés maintenant en 2000. Nous on arrivait à Verquier en 2004. On a sympathisé en 2005 et depuis 2005, que les mauvaises langues disent qu'on va se paxer tous les deux, Henri et moi, parce qu'on est.
C'est sa deuxième femme. Tout simplement.
On est souvent l'un avec l'autre.
Il faut attendre un peu, ça va se débloquer là normalement.
Oui, pareil.
Mariage pour tous, c'est bon.
Oui, bon. À la campagne, de toute façon. Hein.
Bah dites donc.
Donc c'est un vigneron
avec un fils chevrier, faites gaffe quand même.
Parlait des bottes tout à l'heure. Ouais. C'est donc le fils d'une famille bien connue sur Saint-Rémy qui est dans le notariat en général et Henri a donc repris les vignes paternelles tout de suite dans le principe bio et dans la biodynamie. C'est un monsieur qui est vraiment très très intéressant à côtoyer. On vient le voir d'un peu partout. Les jeunes vignerons, les vignerons d'autres pays viennent le voir pour prendre des conseils, pour discuter avec lui, pour échanger.
C'est quoi le cépage de ce vin là?
Et ce qu'on goûte là, donc ce grand blanc 2009, on est sur un assemblage de pratiquement tous les cépages de blanc du domaine. On est sur un grenache blanc. On a un cépage qui s'appelle Roll. On a également de la Roussanne. On a du chardonnay et on a du muscat petit grain qui sont assemblés, qui sont élevés une partie en cuve, une partie en bois. Et tout l'élevage se fait sans soufre, encore une fois, et on sulfite légèrement au moment de la mise en bouteille. On a un côté très agrume. La première bouche, vous avez peut-être retrouver le côté un petit peu fruit du muscat. Et par contre, la fin de bouche, on a quelque chose de très agrume qui titille les papilles et qui donne toujours envie de s'en servir un autre. Et je vois que ça, tout le monde a apprécié parce que la bouteille.
J'ai l'impression qu'il s'évapore. Que...
Il faudra quand même demander à Henri Milan la traduction exacte de la phrase latine qu'il y a sur son étiquette.
Hein,
Ungibus et rostro fluctuat net nec mergitur, c'est-à-dire il flotte mais ne coule pas, mais avant je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça je le savais, mais
on ne demandera pas.
Perdu.
On va y arriver parce que...
Ça va être dur, mais...
L'ami nous a toujours pas dit ce qu'il y avait dans ce plateau de romance qui décline de plus en plus. Bientôt, il y aura...
Bientôt, il n'y aura plus dedans.
T'en pourras plus en parler. Il y avait, mais il y a encore, alors.
Donc, il y avait différents fromages. C'est que des fromages qu'on appelle lactiques, donc des fromages qui sont à la base, qui peuvent se consommer ou frais ou affinés. Donc là, nous, c'est plutôt des fromages affinés pour la consommation comme ça, sur des plateaux de dégustation. Donc, il y avait de la pyramide cendrée. Il y avait de la bûche cendrée, des crottins cendrés aussi. Donc ça, c'est les trois fromages cendrés qu'il y avait. Il y avait de la tome, qui n'est pas de la pâte pressée, qui est toujours un fromage lactique, mais avec un affinage un tout petit peu plus long, avec 3 semaines, 1 mois d'affinage. Et puis des caprioles, qui sont des petits cabécous, en fait. Nous, on appelle ça, c'est des demi-cabécous au niveau de volume de lait. Et puis... Si je me rappelle bien, il y avait un tout petit crottin aussi, pareil, cendré.
Est-ce que la forme joue sur le goût du fromage ?
Non, la forme ne joue pas sur le goût du fromage. Mmh. Après, ce qui peut jouer sur le goût, bon, bien sûr, l'affinage.
Oui, parce que comment ça se fait que lui, par exemple, il ressemble à un camembert là,
il ressemble à un camembert parce qu'il est affiné différemment, la température est différente. Et donc, du coup, ça fait une croûte beaucoup plus... camembert, tout à fait, avec un côté un peu plus fort, vraiment. Ouais. La croûte est vraiment plus forte que le fromage en lui-même, quoi.
Où est-ce qu'on en trouve du fromage de Capri bio?
Alors, du fromage, et à la ferme, évidemment. On va commencer par le commencement.
Donc, c'est à Cazemont-Dénard.
À Cazemont-Dénard, tout
on
à fait.
On est en Tarn-et-Garonne, on est sur les hauteurs, on
le
est entre quelque part entre l'Auzerte et la Française. Quelque
un
part
tout
par
petit
là.
Peu au-dessus, voilà, tout à fait. C'est exactement le secteur-là. Ensuite, vous en trouvez sur Montauban, évidemment, donc dans les distributeurs bio, donc Biosol, Coxibio, la Biocop qui s'est montée récemment aussi. Voilà, donc sur le secteur de Montalbanais, c'est l'essentiel de la...
Et sur, par exemple, est-ce que vous allez sur le terrain de Rodez? Parce qu'on nous écoute à Rodez aujourd'hui, par exemple.
Oui, alors nous, malheureusement, on fait pas beaucoup de marchés. On exporte, oui, en France aussi et à l'étranger, mais un peu plus loin.
L'Aveyron, c'est déjà exporté. Hein.
Oui, tout à fait. Mais c'est un autre pays, presque, des fois, on peut penser. Non, on va surtout... c'est-à-dire... Madame Zorn, donc, Madame Talleux, maintenant, elle est d'origine bavaroise. Elle est de Munich. Donc on exporte, ils ont commencé en 75 à faire du fromage sur case et depuis 75.
C'est quoi, c'est des néo-ruraux, c'est des vieux babacool allemands qui sont venus s'installer
alors,
ici.
Alors non, c'est un couple mixte, donc il y a un français qui est d'origine parisienne, d'accord. Jean-Claude Talleux, et puis Suzanne Thorn, qui s'appelle maintenant Suzanne Talleux, qui est elle d'origine munichoise. Et donc lui, il se targue d'être un 68ard.
D'accord.
C'est installé 68ard. D'abord installé dans le Bourbonnais. Pareil, à la babacool, quoi. Vraiment, il y avait de l'eau, oui, peut-être. Il y avait à manger pas tous les jours.
À l'époque, aujourd'hui, ils sont chefs d'entreprise.
Voilà,
c'est pas qui fait le chevrier,
tout
quoi.
Tout à fait, hein? Voilà. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a réussi. On est 2 salariés, bientôt 3. Et c'est une affaire qui tourne.
D'accord. Et en termes de production, de quantité de production
Nous, on produit 100 000 litres en moyenne de lait par an.
Tu sais pas, c'est beaucoup.
En fromage de chèvre fermier, parce qu'on transforme la totalité de la production, c'est un beau volume. Voire même un gros volume. Après, en production caprine laitière simple, c'est-à-dire comme vous pouvez trouver en Poitou-Charentes, des gros élevages, c'est une petite structure.
Ça coûte cher ?
Ça coûte cher.
Est-ce que ça coûte cher de faire du fromage bio ?
Faire du fromage bio, ça coûte un petit peu plus cher que faire du fromage conventionnel, étant donné que nous, on fait que du fourrage sec, c'est-à-dire que des foins, et pas de l'ensilage. Donc, on n'a pas toujours les mêmes rendements selon les années. On n'arrose pas nos parcelles. Donc une année très sèche, on n'aura pas forcément beaucoup de rendement en foin et donc il faudra peut-être acheter du fourrage. Donc c'est pas toujours la même chose.
Elle ne mange pas des granulés, des machins, des trucs comme ça.
Elle mange un petit peu de granulés en salle de traite de production, mais en achat extérieur, c'est que vraiment les concentrés de production.
Les granulés, c'est quoi? C'est des farines animales?
Non, pas du tout.
C'est
que des produits d'origine végétale.
Voilà, soja et tout. Ouais.
J'ai entendu des mots comme dessaisonner, passer l'éponge,
passe-moi l'éponge.
Alors, vous savez, vous le mettez derrière l'oreille
Parce qu'on va en parler après un petit morceau de jazz, peut-être. Parce que j'en connais un ici qui râle toujours qu'on n'écoute pas suffisamment de jazz. Et là, je profite qu'il ait la bouche pleine pour lui voilà, dire, pour bah, c'est l'heure, c'est pour le coincer.
Puis ce soir, le jazz se plaît. Michael Bublé, c'est du crooner, c'est plus facile d'écouter. Donc,
là, est-ce que c'est toujours du jazz?
C'est toujours du jazz parce que la façon dont il le fait, il swing. Derrière, il y a un big band qui joue très très bien. Le morceau que j'ai choisi maintenant s'appelle Moon Dance.
Tu as compris que je mets un morceau de musique à chaque fois que mon verre est vide. Moi, c'est le principe du rythme de qu'est-ce qu'on déguste.
Tiens, reprends un petit coup blanc. Là, il va peut-être être un petit peu. Fantabulous night to make romance beneath the cover of October sky. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush. And all the soft light seems to shine in your blood. I can't lie, I just have one more moon dance with you, my love. I can't lie, just make some more romance with you, my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know that time is just right. And straight into my arms will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. At any time that I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me, that you can't hide. I can't hide, just have one more moon dance with you, my love. I can't I just make some more romance with you, my love. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning's come. And I know that time is just right. And straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime and I touch you, just tremble inside, and I know how much you want me. Can I? Can I?
Ça donne quand même envie d'y être, quoi. Effectivement, voilà.
Ça envie de taper du pied. D'abord,
le jazz, c'était tout le temps ça, tu vois. On écoute du jazz tout le temps.
Le jazz est bon, c'est quand tu tapes du pied en écoutant.
Ouais. Ça c'est du swing, c'est du bon swing, ça. Ouais, ça c'est bien. Comment ça s'appelle déjà?
Moon Dance.
Non, mais
le titre du morceau c'est
le
Moon
chanteur
Dance
et le chanteur
par Michael Bublé.
Michael Bublé. Donc, qu'est-ce qu'on déguste ce soir? Si vous prenez le train en marche, nous recevons la famille Foles, enfin un bout de la famille Foles, parce que c'est fait un peu famille nombreuse quand même. Hein. On a le père et on a un des fils. Le père, c'est Daniel, et il est venu en quelque sorte faire un petit séjour en Tarn-et-Garonne chez son fils. Et en même temps, il en profite pour faire le tour des producteurs, d'essayer de ramener pour le restaurant de son autre fils, dans lequel son autre fils est cuistot, en tout cas Stéphane. Sébastien. donc de ramener quelques produits bio. Ils sont passés par là, donc on les reçoit ce soir avec un grand plaisir dans Qu'est-ce qu'on déguste, d'autant qu'ils sont venus les bras chargés de mets à déguster. Vous connaissez le principe, hein, on peut vous inviter quand vous voulez, seulement...
voilà, nous on aime bien les invités qui poussent la porte avec le pied, qui ouvrent la porte avec le pied.
C'est ça.
Chargé de victuailles.
Et donc, on a sur la table quelques bonnes bouteilles déjà bien entamées. On s'apprête à déguster un Cahors rouge. Le Clos Siguier, ça s'appelle, un 2009, on en parlera tout à l'heure.
Il n'y a pas de Cahors blanc.
On fait ça avec des fromages bio de Casemont-Denard, Capri Bio. Là où, justement, Rémi, Fols et Chevrier. Et la question que je lui posais à Rémi, juste avant... on écoute Mr. Bubbly's,
Bubbly.
C'est quoi dessaisonner? C'est quoi ce mot?
Alors dessaisonner, en fait, les chèvres comme les brebis, c'est des animaux qui ont des cycles de chaleur saisonnés. Ça veut dire que ils vont pouvoir tomber, enfin ils seront en chaleur et donc ils pourront être saillis et être pleines. Enceinte pour les humains.
On est d'accord.
Elle, oui.
Les animaux. Faire du lait.
Et donc faire du lait parce qu'il faut forcément une gestation et une mise bas pour qu'il y ait lactation.
D'accord.
Forcément. Donc, pour revenir à la. Donc, c'est. Dessaisonner, c'est en fait, par la lumière, on leur fait croire que on n'est plus à la même époque de l'année pour qu'elles tombent en chaleur et qu'elles soient saillies et qu'elles puissent faire du lait. À une période, normalement, elles auraient dû être vides et en fin de lactation. Et donc nous, on aurait pu de lait pour transformer.
D'accord.
Voilà.
Donc, ça veut dire que dans les, ça s'appelle une étable. Là
oui,
où
dans
les
tables, tout à fait.
Donc dans l'étable, on met des projecteurs comme les mecs ils font leur weed à la maison là pour faire pousser de la ganja.
Sauf que c'est pas des lampes à sodium. Là, c'est tout simplement des néons comme d'accord. Vous pouvez avoir chez vous, ouais. Mais avec une intensité importante. Il faut qu'il y ait 200 lux sur la journée, sur une période donnée, sur les 24 heures. Il faut qu'elles aient leur quantité de lumière comme si on était au printemps, tout d'accord. Simplement.
Mais c'est bien ça? Est-ce que c'est bien pour la nature? Est-ce que
mais
c'est bien bio?
Que non.
Est-ce que c'est mal parce qu'elle nous dit?
Non, c'est pas bien parce que ces pauvres bestioles, normalement, il y a un cycle de reproduction annuel, point. Et là, on les épuise à dessaisonner. On les épuise.
Alors, Rémi Fosse.
On a le droit de s'énerver, non?
On
retourne au studio.
Plaisir, quand même.
Je sais pas s'il y a beaucoup de plaisir dans la reproduction animale, mais
c'est qui est content, lui. il va sauter
une
tout
femelle,
au long de l'année.
Un bouc pour 35 femelles,
ça les épuise pas. Oui, voilà. Mais
non,
question,
en fait, il n'y a pas d'épuisement étant donné que nous, on garde un cycle. C'est toujours les mêmes femelles qui sont dessaisonnées. Donc, en fin de compte, elles ne doublent pas les mises bas dans l'année.
Un cycle décalé, quoi.
Elles sont en permanence décalées, en fait.
Ah, d'accord, elles ont le même cycle.
Elles partent sur une lactation normale au départ.
Au lieu d'avoir, mettons, j'ai 100 chèvres, au lieu d'en avoir 100 qui font
qui
du lait
en février.
Tout le monde en même temps,
voilà.
Il y en a 50 qui font en février
par
et 50
exemple.
Qui font
en novembre.
Oui. Octobre-novembre.
Voilà. D'accord, et du coup.
Et donc, en fait, cette période-là où normalement il n'y a pas beaucoup de lait, donc décembre, janvier, février, parce qu'une chèvre qui va mettre bas, on la tarie. On arrête de la traire et on fait en sorte que sa mamelle remonte et que la glande arrête de produire. Et qu'il n'y ait plus de lait du tout, parce que ça permet de régénérer la mamelle.
On a un appel de DSK, je crois, qui est intéressé par ton travail. Il aimerait rentrer en contact avec toi.
Rassure-moi.
Je crois qu'il était cochon plutôt.
Elles sortent de l'étable.
Tout à fait.
Hein, c'est pas.
Non. On n'est pas en zéro pâturage. On n'est pas.
Ouais, c'est pas un truc en batterie.
Non, pas du tout. On a un bâtiment où elles dorment la nuit. Et ce qui nous permet de leur faire croire avec la lumière.
Ah, parce que la lumière dure un peu plus longtemps.
En fait, tu
éclaires jusqu'à 22h, comme
voilà,
si...
Voilà, on va pas rentrer dans les détails trop techniques, mais on les éclaire pour qu'elles croient que c'est le printemps en hiver.
Ouais, en fait, c'est con une chèvre, quoi.
Alors, il y a une autre chose.
On déjà un peu.
Oui.
Là, c'est du dessaisonnement par éclairage, par intensité lumineuse. Il y a aussi le dessaisonnement et provoquer des chaleurs, comme disait tout à l'heure, avec l'éponge.
Les hormones.
L'éponge. Attends, jingle. Un petit coup de Clos Siguier.
Gilles Blé.
Comment tu dis ?
Gilles Blé, le vigneron.
Monsieur Jim Blé.
Voilà.
Ça tombe bien pour parler de l'éponge.
Mais, boire comme une éponge n'efface pas les ardoises.
Grande philosophie. De toute façon, en plus, pour venir aux chèvres, elles ont quand même de la musique tout le temps.
Qu'est-ce que ça sent bon ? C'est vrai ?
Ah oui.
Elles ça, c'est du flan, ça.
Ah non, non, mais...
Arrête, c'est comme ma femme qui parle aux plantes.
Elles
écoutent c'est juste parce que moi, je peux plus l'entendre au bout d'un moment.
Henri Milon, non, parle, non, elles écoutent la musique Milon, toute la journée. Vignes, tous les matins. Il passe dans ses vignes, il discute avec ses...
Moi, j'ai parlé avec mes légumes pendant des années.
Eh ben alors.
Mais toi, ça se voit.
Je suis
un peu, toi.
Ouais, nous, on parle bien des micros.
Hein. Ouais, on aussi, ouais.
Yo, oui.
Mais donc l'éponge quand même, l'éponge. Ouais,
l'éponge, toujours l'éponge. Alors l'éponge, ça nous concerne pas, étant donné que nous on est en production biologique.
Voilà.
Donc les hormones, ça nous concerne pas, mais alors
c'est
pas
de
du tout.
Alors voilà. C'est quoi l'éponge, Pascal?
Eh ben on met des hormones de pour ouvrir les chaleurs.
Voilà.
On met ça sur une éponge. L'éponge, on leur colle ça dans le cul. Et ça,
dans la vulve, plus particulièrement, ouais, parce que dans le cul,
ça marche pas.
Dans le cul, ça marchera pas si ça ressortira par les voies naturelles.
Voilà.
Les boules
sont
passées
dans la vulve. Et ça provoque les chaleurs, artificiellement. Ça provoque artificiellement les chaleurs des chèvres.
Ça,
et ça, c'est pas bon du tout.
En fait, on leur balance dans le corps des hormones qui, normalement, sont produites naturellement à la période donnée.
Bah, comme quand tu prends la pilule. Enfin, toi, non.
Tout à fait. C'est le même principe, sauf que là, c'est pas du contraceptif. C'est l'inverse. C'est pour provoquer justement
pour
derrière
provoquer
des chaleurs et derrière une gestation.
Voilà.
D'accord, la fameuse pilule troisième ou quatrième génération qu'il faut pas prendre.
Voilà.
N'importe quoi. Alors ça, tu vois, mais tiens, c'est ça là. C'est le petit Cahors qui commence à faire n'importe quoi.
Voilà, belle excuse.
Hein? Mais t'as vu comment c'est bon ce truc?
Gilles Blé, petit goût de... Ah, c'est tout nature hein, chez Gilles Blé.
Attends.
C'est exceptionnel.
Les infos et Gilles Blé.
CFM.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens? Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
You need a real man.
Qu'est-ce qu'on déguste la suite? Mon cher Pascal, hier soir nous avons dégusté un Guillain-Barré, un Cabardès. Et nous nous posions la question pendant les infos, de quel vin s'agissait-il? Étiquette verte de chez Guillain-Barré. Donc je tape dans Google Guillain-Barré. Je vous épargne tout ce que vous raconte Google. Hein, quand vous tapez Guillain-Barré, il y a le syndrome Guillain-Barré.
Oui.
Je ne sais
c'est
pas
moins
ce que
marrant.
C'est.
Ouais, il vaut mieux choisir, festif. Il vaut mieux choisir les étiquettes vertes, à mon avis.
Le syndrome Barré, c'est pas très bon.
C'est ça. Et du coup, ben, je ne sais pas, parce qu'il y a des étiquettes rouges, des étiquettes jaunes. Ah si, tiens, peut-être c'est celui-là. Alors je vais vous dire, nous avons bu le Sous le Bois hier soir.
Bravo.
Voilà, bravo, parce que effectivement, Daniel Fols savait exactement ce que nous avons bu.
T'es sûr qu'elle n'était pas bleue l'étiquette?
Non, c'est une étiquette verte.
Il y a la carte au croque-chou.
Et voilà, il y a la carte au croque-chou dans ton restaurant, Daniel.
Tout à fait.
Alors, si un jour on va par là-bas.
Qu'est-ce qu'on mange?
On va au.
Verquière.
Verquière. Il faut que j'arrive à me le mettre dans la tête.
Parce qu'il ne sait. De toute façon, il ne retiendra jamais le nom.
Verquière. On va à Verquière. Je mets Verquière dans mon.
Place de l'église.
Dans mon. Tournez à droite au prochain rond-point. Bon, hein. On arrive à Verquière. On demande le croque-chou. Bon, jusque là, c'est un petit bled, donc on devrait trouver facilement.
Y a pas de souci.
Et il y a un repas à la truffe, je sais. Y a une
actuellement, oui.
Hein, voilà. Sinon, le principe, la philosophie du lieu. Tu nous en as déjà parlé, mais on redit pour ceux qui n'étaient pas là.
La philosophie du lieu, c'est un travail de produits frais, bio, de saison. On n'est jamais hors saison, puisque comme on travaille du frais, c'est pas trop possible.
C'est pas comme Francis Cabrel.
Donc là, on va pas manger d'haricots verts, là.
Ah non, il n'y a pas d'haricots verts actuellement, non. Et un petit peu, c'est même les périodes un petit peu difficiles maintenant, parce qu'on est en train
de... Il n'y a pas grand-chose.
Fin de production d'hiver...
Là, ils te mettent du topinambour, du topinambour, du topinambour...
Ah, ça va péter dans les chaumières.
Il y a du topinambour, du chou et du pané. C'est très bon.
Ça fait péter aussi.
Salsifie.
Ça fait péter.
Ça fait bien. C'est bon, hein.
Ah ouais, ça pour la bio... Ça, c'est pour... Non, pour la biogaz.
La méthanisation. Pour travailler.
Ouais. La méthanisation, c'est terrible.
Qu'est-ce qu'il y a encore actuellement? Le chef, son légume préféré, c'est l'artichaut.
Ah, ça, c'est bien, l'artichaut.
Il travaille très, très bien, l'artichaut.
Le plat du pauvre, disait Coluche. C'est le seul plat où t'en as plus dans l'assiette quand t'as fini.
Bah, écoute, si tu viens voir au croque-chou, tu verras que finalement, il y en a plus dans la poubelle à l'arrivée que dans l'assiette, parce qu'on garde juste le cœur. Il y a un travail de fou, quoi. On peut pas se permettre de, c'est pas l'artichaut qu'on met comme ça. S'il travaille le cœur de l'artichaut uniquement, c'est un gros, gros travail. Et gustativement, c'est très, très bon.
Mais c'est une salle où tu reçois combien de personnes dans ton resto, là?
Eh ben, écoute, au resto, nous, on fait entre 25 et 30 couverts. Pas plus.
C'est pas beaucoup, ouais.
Non, mais bon, on a
ticket
pas.
Ticket moyen?
on n'a pas la structure. Le ticket moyen, ben, c'est un petit peu difficile parce que ça marche à plusieurs vitesses. Le fameux Bip Gourmand, avec lequel on travaille beaucoup les midis notamment. C'est-à-dire que c'est un menu qui est à 29 euros entrée plat dessert. Avec tous des produits frais, produits bio exactement, toujours pareil. Ensuite, on passe à un menu à 40 où on a un peu des choix d'entrée, on a une déclinaison d'œufs de poule, actuellement avec un petit peu de truffes, des champignons, etc. On a des huîtres très souvent qui viennent d'une famille de Normandie à Grand-Camézy. Un ostréiculteur.
Attends.
C'est plus local, ça. Allez, je te vois venir.
Mais non, mais attends, le mec, il a la Méditerranée, à 30 bornes.
Les huîtres du bassin de Thau, tu sais, c'est pas facile. Actuellement, il y a un gars qui est en pleine bourre, qui est un gars qui s'appelle Tarbourièche, qui fait des huîtres dans le bassin de Thau. Il n'y a pas de marée dans le bassin de Thau. Donc, il a recréé un système où les huîtres sortent régulièrement comme une marée. Hors de prix et tout part à Paris dans les gros restaurants. Nous, c'est difficile d'en avoir.
Donc après, sinon, t'aimes pas les petites, les autres huîtres, c'est pas.
Ben, le problème du bassin de Thau, moi, je trouve que c'est toujours hyper salé, hyper concentré
c'est
en sel.
C'est pas vrai, ça dépend. Nous, on a un producteur ici qui vient tous les samedis sur le marché des producteurs qui s'appelle Guy Compense.
Ah, les huîtres plates,
et
les Compense.
Ouais. Sont vraiment très très bien.
Ouais, mais pas trop sel. Moi, je trouve que c'est souvent très sel.
Non, mais enfin, et tout dépend. S'il a beaucoup plu, elles vont être moins salées.
C'est le problème.
S'il a pas plu du tout.
Tout à fait.
Mais ce Guy Compense, là, sur le marché de Montauban, si vous y passez, allez-y. J'ai converti beaucoup de monde à ces huîtres, à un prix en plus.
De taux.
Et à un prix, c'est 6,57 euros la douzaine. Oui. De belles huîtres, les numéros 2.
Sinon, on travaille l'agneau de Provence, le taureau. On fait plus de bœuf, nous. On a des taureaux à domicile. On travaille du taureau de Camargue à Haussé, qui est excellent, quoi.
C'est pas du cheval.
Non mais c'est ça la traçabilité.
Ils ont les cornes. C'est du vrai. Ça,
donc tes huîtres, sinon elles viennent de Normandie.
Elles viennent de Grand-Camézy.
Bonjour, le bilan carbone de l'huître au croque-chou. Hein.
Hey. C'est quand même ça. Toujours là.
Attends.
Parce que notre centrale avec laquelle on travaille sur les produits frais de poisson, elle est installée à Lyon. C'est-à-dire que nous, le produit, on le paye de Lyon à Verkhères. C'est-à-dire que notre taxe carbone, elle est un petit peu réduite à ce moment-là.
À moitié.
Ouais.
Oui, enfin bon, ça c'est...
Ouais.
Mais bon, de toute façon, ça reste français quand même.
C'est comme l'agriculteur raisonné, ça c'est un truc à la con.
Ouais. Ah bah là, on peut y aller. Hein.
J'avais pas posé une question à Rémi tout à l'heure.
Je
ne m'en rappelle pas.
J'ai répondu sur l'éponge.
L'éponge, la saisonnalité.
Encore, il y avait autre chose.
Ah bon ?
Ça va me revenir. Ça va me revenir, mais...
On doit parler du cahors.
Du cahors de Gilles Blé.
Ah, on devait aussi faire ça. On devait faire ça, on voit.
C'est très bon. On est sur
mais bon,
un
100% Malbec. À un moment, il y a un gars ici qui s'appelle...
Voilà.
Qui commence à s'impatienter.
Et Gaël, un moment...
Et je commence justement, à cause un peu du vin, d'avoir les oreilles rouges.
C'est ça.
Et ça, c'est l'occasion rêvée pour en parler. Donc, les oreilles rouges, c'est une bande dessinée pour l'occasion de Christophe Sénégas. Mais les oreilles rouges, c'est avant tout un groupe formé par deux potes, Guillaume Boutevillain et Miloud Ben Grollo. Bon, alors évidemment, avec des noms comme ça, ça pouvait finir qu'en BD. Mais ils ont, paraît-il, découvert un truc étonnant. Les enfants seraient des gens intelligents.
Punk, hein. C'est des punks, hein, Guillaume Boutevillain,
oui,
un peu, parenthèse.
Oui. Au départ.
C'est un mec, il a un groupe qui s'appelle Conde Coy, qui a énormément fait parler de lui à une époque, parce qu'il avait fait des affiches où on voyait marqué Conde Coy. Coy, c'est en argot.
Oui, hein, c'est une déclinaison.
C'est flic, donc le groupe s'appelait Con de flic. Évidemment, ça n'a pas plu à cette époque-là. Et ils se sont fait prendre tout le matériel pendant des années et des années. Et ils ont eu un procès qui a duré, un procès fleuve, où ils ont perdu beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, qu'ils ont gagné parce que liberté d'expression oblige.
Heureusement.
Mais voilà, donc c'est Aurélien Aide-moi, le groupe de Guillaume, les
oreilles rouges.
Mais non, mais ça c'est pour les, c'est pour les enfants, mais sinon... Ah, zut, ça va nous revenir.
Oui, bah,
c'est difficile avec ton cahors là aussi.
Ouais, j'ai un trou aussi là-dessus. J'avais travaillé moi en plus.
Bon, allez, je le redirai après.
Bon, alors en tout cas, en sortant de ça, ils ont paraît-il découvert un truc étonnant. Ça serait que les enfants seraient des gens intelligents. Chose sur laquelle quand même j'ai mis quelques réserves en ayant moi-même. Et du coup, ils décident d'écrire pour les enfants.
Les chiens font pas des chiens.
Et alors, ça nous donne ça. Quand ça commence.
La mousse au chocolat. On dit que ça donne mal au cœur, que ça donne la crise de foi, mais il n'y a rien de meilleur. Quand je vais au grand restaurant, moi j'en commande tout le temps, car de tous les desserts, c'est celui que je préfère.
La mousse au chocolat, la 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 mousse au chocolat.
Bon, les auditeurs qui nous suivent auront compris donc du coup pourquoi ça me plaît un peu, c'est-à-dire qu'il y a le côté un petit peu forcé.
Ils sont partis des auditeurs.
Et puis on parle de mousse au chocolat. Bon, c'était donc tout naturel que ça se retrouve dans une bande dessinée.
Ouais, bon.
Ouais, puisque comme tous les gosses en général, ben Guigui, donc Guillaume dont on vient de parler, Guillaume Boutte-Vilain, tout gamin rêvait d'être un super héros, mais lequel? Parce que complexé par un léger embonpoint, il adore manger. Alors c'est ce qui m'a rapproché aussi de ça. Ça me
le léger embonpoint de Guillaume.
Oui, non, mais c'était
Guillaume,
pour
si
pas être
nous
trop.
Entends.
Trop vexant.
Non, mais ça va, il est pas gros.
Non, je pense pas non plus. Bon, parce qu'il adore manger et remanger. Donc, comme un certain chroniqueur que nos auditeurs auront peut-être reconnu. Donc, Guigui, il a peur d'être trop lourd pour une toile, par exemple, genre Spider-Man. En plus, il est nul pour hypnotiser les autres et il est pas très convaincant en robot. Mais à un moment, du coup, c'est la révélation. Bah, il sera super gros. Et Miloud sera super fouettard. Bon, d'accord, je suis d'accord que le jeu de mots est pas très heureux, mais bon, on retrouve dans la BD l'humour et la générosité de leur chanson, et le trait de Christophe Sénégas fait parfois penser à Carali ou à Guillaume Bouzard, donc pour moi c'est plutôt un compliment. Ça forme un joli objet avec le CD du spectacle. Donc comme c'est de l'auto-édition, vous pouvez le commander à leur association, donc Les Oreilles Rouges, qui est à Albi. Donc c'est 37 avenue d'Hambourg. On vous mettra toutes les coordonnées. C'est plutôt bien. C'est plutôt quand même destiné à un jeune public. Voilà, ça s'appelle Les Oreilles Rouges. C'est de l'auto-édition. C'est dessiné par Christophe Sénégas.
Voilà, et vous aurez reconnu, ça y est, ça m'est revenu, Opium du Peuple. Donc le chanteur d'Opium du Peuple. Et un groupe aussi, Montalbanais, depuis peu, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de casquettes, Mister Guillaume Boutte-Vilain. On le retrouve aussi au micro de Pete Weiler. Et pour les adultes, ça donne ça. Ça, c'est quoi? C'est Opium du Peuple? Allez, c'est parti. Opium. Et puis, il y a l'autre, il y a encore un troisième groupe où ils font que des reprises un peu débiles. Le nom m'échappe encore, mais bon, ça lui apprendra à faire plein de groupes.
Hein. C'est leur univers.
Pour Casanova et moi, moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour moi. Et qu'au dernier nuit, passaient les notes. Avec maître Jojo et avec maître Pierre, notre notaire, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi, je suis resté le plus fier. Moi, je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs de chez la Montalant, que je ne fais du cul, le ventre leur derrière. Moi, nous chantons.
Voilà, donc ça c'est Opium du Peuple, l'autre projet c'est Pete Weiler, l'autre projet c'est Kondkoï, l'autre projet c'est Les Oreilles Rouges, et tout ça c'est Guillaume Boutte-Vilain au micro.
Georgette, pourriez-vous quand même videler cette tourte? Qu'est-ce qu'il voulait dire le gros Léon par là?
Est-ce qu'il prend une baffe ou pas?
Non, il prend pas de baffe.
D'accord.
Parce qu'elle a les mains dans la pâte. Parce que videler, c'est quoi? C'est faire un rebord sur une abaisse de pâte. Pour une tourte, pour une tarte, pour un chausson. Et tout ça, ça s'appelle videler.
Videler.
Videler la pâte. Faire un ourlet autour pour que...
Pour que ça soit hermétique.
Pour que ça soit hermétique. Chose. Mais en même temps, il faut toujours faire une cheminée. Sinon, si c'est trop hermétique et que l'on met des mets à l'intérieur, des aliments à cuire qui contiennent de l'eau, et il y en a beaucoup... même s'ils contiennent du vin, eh ben ça va faire de la vapeur et ça va exploser la pâte. Donc on videle sa tourte et on fait une cheminée pour que les vapeurs s'exhalent.
Mais alors après, c'est compliqué à cuire une tourte parce qu'il faut pas cramer justement le chapeau. Tu vois, c'est quoi? C'est une cuisson à basse température, une tourte?
Non, ça se fait. Non, ça se fait à 180-200 degrés. Hein, à peu près. Il faut quand même que ça soit.
Il veut dire quelque chose de la bouche pleine, Daniel.
Il ne dira rien.
Oui.
Bon, il ne dira rien, voilà. Sinon, après, ben, on peut faire, tant que je l'ai, le micro, on pourrait faire peut-être des fonds. Ça sert à quoi, des fonds? Alors, on peut avoir du fond blanc de veau, du fond de veau brun, on peut avoir du fond de volaille, on peut avoir du fond de bœuf, on peut avoir du fond de poisson, bien entendu. Ben, ça, le fond, ça évite, un, d'utiliser des trucs tout prêts, genre les bouillons cubes qui sont faits non pas avec du cheval, mais avec les sabots des chevaux que l'usine au saveur de Spanghero n'a pas voulu. Parce que c'était pourri. Donc c'est avec ça qu'on fait les bouillons cubes et autres trucs comme ça. Bon, vous en trouvez dans les magasins bio qui sont bio, qui sont bons.
Le mieux, c'est de le faire à soi, quoi.
Eh ben, le mieux, c'est de le faire à soi. Donc comment on fait un fond qui va servir à faire cuire des haricots, à faire des pâtes, à faire un fond de sauce, à faire un jus de rôti, plein de choses. Eh bien, on prend des os, tout bêtement. On va demander des os à son boucher. Alors, des os de veau, si vous allez chez Monsieur Chevard, il va vous le faire avec un grand sourire. Il va même vous scier les os en deux et en petits morceaux pour avoir vraiment tous les sucs. Ces os, soit on les fait caraméliser au four, c'est-à-dire on les fait brunir, vraiment, on les fait presque roussir, ou alors on les met dans une sauteuse avec de l'huile et on les fait revenir. On rajoute carottes, oignons, échalotes, bouquets garnis, on rajoute de l'eau et on fait réduire. Alors, ça prend du temps, mais pendant ce temps-là, on peut vaquer.
Un bouillon cube, quoi.
Voilà, c'est quoi, ils fondent les œufs, les œufs, n'importe quoi.
Non, les œufs ne fondent pas, mais ils vont exhaler tous leurs arômes, libérer les sucs, voilà, ouais. dans cette eau.
Libérer les sucs.
Et on fait réduire, alors ça prend 2h30, 3h, effectivement.
On met la moelle avec ou?
On met tout.
Oui, d'accord.
On met tout. On fait réduire, et ensuite, on peut mettre du vin, on peut mettre de l'alcool, on peut faire ce qu'on veut avec ça.
Enfin bon, quand tu fais un bon pot-au-feu avec les restes, tu continues de le faire cuire et ça fait un fond.
Ben, ça fait pareil.
Non?
Ben, c'est un fond sans fond.
On sait à laisser les os.
Mais oui, il faut les os, les choses comme ça. Et après, on passe ça au chinois, on fait réduire et on a le bouillon cube liquide. Mais au moins, on sait ce qu'on a mis dedans.
Et qu'est-ce qu'on fait? Non, mais tu peux le garder, ça.
Tu le congèles dans les bacs à glaçons.
Tu
le congèles, tu mets ça de côté ou dans des pots de yaourt vides, tu remplis. Ça te fait une dose pour, 500 grammes de pâtes.
Prends un peu nos auditeurs pour des cons, le mettre dans des pots de yaourt pleins, ouais.
Non, vide. Oui. C'est malin. Il est con.
Non, mais t'es obligé de préciser.
Il en faut un quand même ici. Hein. Faites vos fonds.
Le fond.
Non. Dans le fond, t'es pas si con.
Bah, je sais. Mais il faut trouver le fond, par contre.
Et là, on touche le fond.
C'est ça. Tu peux aussi avec les arêtes de poisson, les choses
avec les poissons, avec le veau, avec tout.
Dernière ligne de droite pour ce qu'est-ce qu'on déguste. 26 ans, hein, c'est ça, Rémi? 28 ans. 28 ans, chevrier, quoi. Je veux dire, moi, je serais ton père, je te fêterais une grande claque dans la gueule, quoi. Je te dirais, mais trouve un vrai métier, quoi. Non?
Oui, on
faut oser, quoi.
Ça.
On est en 2013, là. 2013, c'est quoi? C'est un passage dans une vie d'agriculteur. Un jour, tu vas prendre une exploitation,
voilà,
à toi,
fait.
C'est ça?
C'est ça. Ouais. T'as cerné le truc. C'est qu'en fait, je voudrais, moi, m'installer. Alors, pas du tout en chèvre laitière, mais en vache laitière. Parce que je suis arrivé dans le Tarn-et-Garonne pour travailler à la Tomme du Ramier.
D'accord.
Sans faire de pub, mais je suis arrivé là pour travailler dans les vaches laitières. Parce que c'est ma formation.
En plus, ça, c'est super facile. Ils ont un robot qui traite tout seul.
Oui,
comme ça,
on avait du travail malgré tout.
C'est pas emmerdé pour
travailler. Il y a un petit peu de surveillance.
Ah ouais, tu surveilles que le laser, il repère le pied.
Oui, mais le but, c'est de surveiller les chaleurs, de surveiller les vaches, de voir que tout va bien. Mieux vaut prévenir que guérir.
Mais je croyais que la filière laitière était en grand danger. On n'arrête pas d'entendre les agriculteurs qui disent « Ouais, mais les quotas, ça nous a foutu dedans, on va tous crever, enfin c'est pas possible, etc. »
Après,
on est obligé
dans l'agriculture,
de faire des distributeurs automatiques de lait.
Dans l'agriculture, il y a plusieurs vitesses toujours. Déjà, on peut séparer l'agriculture conventionnelle, traditionnelle, de l'agriculture biologique, qui n'est pas du tout le même débouché déjà dans les productions. Que ça soit une production laitière pure et simple pour faire du lait de consommation,
ou viande.
Déjà, ou viande, bien sûr aussi, si on prend la viande. Mais après... on peut séparer aussi les gens qui transforment et les gens qui produisent du lait. Quand on transforme du lait en fromage, on a une valeur ajoutée. On arrive à dégager
bénéfice.
Quelque chose. Si on est bon, on arrive à gagner plus que d'autres. Et si les produits sont bons, on arrive à gagner plus ou moins notre vie.
Donc le but du jeu, c'est pas de vendre du lait à une coopérative.
Où là, on gagne très peu. Et d'accord. Il faut gagner des sous sur le volume et non pas sur la qualité. Enfin, sur la qualité du lait, certes, mais quand même surtout sur le volume. Parce que les marges sont très petites.
On trouve ici dans les magasins bio des produits laitiers, notamment un agriculteur qui, je ne sais plus où il est, mais il a des vaches, c'est des jerseyaises. C'est des petites vaches qui pissent le lait, qui font un lait
très gras,
jaune. Et là, le beurre de jerseyaise, c'est jaune foncé.
Ça a
c'est
du goût,
goûteux. Voilà. Il fait aussi des yaourts, il fait des fromages blancs. C'est magnifique, c'est délicieux.
Et donc, toi, tu voudrais
quelques années.
Comme notre ami, qui c'est qui fait ça dans Tarn-et-Garonne, Taïsédou, il fait ça.
Il fait des glaces, lui, par contre.
Oui, il fait du fromage blanc, il fait des yaourts. Voilà.
Il soigne ses vaches à
l'homéopathie.
À l'homéopathie.
Oui, nous aussi, tout à fait.
Ouais, pareil. Tu leur donnes des petites pilules, quoi.
Des granulés, tout à fait.
Voilà, des granulés.
Des granulés de
comme pour nous, hein.
Oui, les mêmes.
Si on veut.
Ça marche.
Sauf que sur les vaches, ça marche, apparemment.
Mais sur nous aussi, ça marche avec nous. Ouais, ouais.
Ça marche.
Donc, moi, c'est mon projet.
D'accord.
Voilà.
Et ici, plutôt en Tarn-et-Garonne?
Oui, plutôt en Tarn-et-Garonne, parce que je suis avec quelqu'un qui travaille dans le Tarn-et-Garonne.
D'accord.
Et on a eu un enfant dans le Tarn-et-Garonne récemment.
Et c'est viable aujourd'hui en Tarn-et-Garonne?
Tu
viens en concurrence de la tome du Ramier?
Non, pas du tout. Je suis très loin de l'univers de la tome du Ramier et de tous les points de vue.
Ouais.
Au niveau qualitatif, au niveau quantitatif surtout, dans la démarche.
Du côté de Mazrac, là, il y a un nid de bio là-bas qui sont adorables. Il y a plein de gens qui font des bons produits.
C'est un peu un irréductible secteur gaulois avec des vieilles valeurs et des vieilles traditions de toute façon, et des envies de bien faire surtout.
Quand t'es dans le bio, t'es toujours un peu irréductible gaulois. Hein. Maintenant, de nos jours, c'est la grosse bagarre quand même.
Tiens, il nous reste très peu de temps, mais on va quand même en parler du bio.
Il y a de la bière, attends, on dégraisse à la bière.
Tiens, moi je veux bien de la rate. Alors, le bio aujourd'hui, est-ce qu'il est subventionné suffisamment? Est-ce qu'il est suffisamment mis en avant? Est-ce que les politiques aujourd'hui vous aident suffisamment à vous installer? Est-ce que les chambres d'agriculture vous suivent?
Alors,
un jeune agriculteur qui veut s'installer en vache laitière bio.
Les chambres d'agriculture, elles suivent tout le monde.
Monsieur Jean-Paul Rivière, nouveau président de la chambre d'agriculture.
Elles n'ont pas de... Comment dire? Elles ne choisissent pas leurs clients, étant donné que tous les agriculteurs sont, entre guillemets, des clients. Mais on n'est pas plus aidé que des voisins conventionnels ou traditionnels. Il n'y a pas plus de subventions. Et puis, quand on s'installe en bio, on ne s'installe pas forcément parce qu'on s'attendait à être aidé. On s'installe dans une démarche qui est complètement différente, à mon sens, de beaucoup de jeunes agriculteurs qui s'installent, c'est que nous, on vient là pour produire proprement et faire en sorte de laisser quelque chose de propre derrière. On vient pas là juste pour prendre notre partie de la
couverture. C'est un discours ou c'est vraiment ancré au fond?
Les jeunes agriculteurs
que
je fréquente, moi, qui sont en bio, dans le secteur justement Vazrac, c'est des gens qui sont à 10 000 lieues de la production intensive et de la décharge que peut être des fois certaines exploitations qui utilisent les sols non pas comme le sol mais comme un support de production. Alors qu'ils ont oublié que le sol, à la base, il est vivant. C'est pas juste un tapis sur lequel on met de l'engrais, des semences, on arrose parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Non, ils sont là dans un contexte pédoclimatique et géographique et ils s'adaptent à leur contexte. Et ils font pas en sorte de produire avec une vue à long terme et puis une vue globale, une vue sur, même si c'est souvent du local, on essaye de faire en sorte que tout le monde en profite, quoi.
Rémi.
Mais finalement, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que comme quand même certains métiers, c'est-à-dire que là, on sort du cadre du métier et on rentre dans la vocation, c'est-à-dire que là, au plus profond de toi, je pense qu'il y a quand même une chose qui t'anime au-delà finalement de ce qui anime nous notre société aujourd'hui, c'est-à-dire la rentabilité, le fric, le profit, etc. C'est-à-dire que là, ça part pas du tout de ça. Peut-être que ça peut y arriver.
Voilà.
Mais en tout cas, le point de départ de ta démarche, ça reste quand même quelque chose de
Le bio, c'est malgré tout une exploitation, ça reste une entreprise. On n'est pas fonctionnaire. À la fin de l'année, il y a un bilan qui est fait comptable.
Contre les fonctionnaires.
Et il faut bien, un moment où un autre.
Le papa, il a été fonctionnaire longtemps.
Tout à fait, tout à fait. Et il faut bien rendre des comptes d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quand même une entreprise. Mais c'est une entreprise qui a une démarche différente de la majorité des entreprises actuelles. Et surtout dans l'agriculture, c'est pas facile.
Une minute pour boire un coup de Ratz de Cahors et puis en parler surtout.
Tu veux quoi? La blanche, la blonde ou de l'ambrée?
Alors moi je veux de la blonde. Je veux de la blonde. Donne-moi de la blonde, tiens. Hop.
Bon, ça c'est une bière artisanale, hein. Faut le dire dès le départ.
Alors, parce c'est que... à Cahors, quand on va à Cahors depuis Montauban, voilà. Sur Cahors, sur la droite, là, il y a
la zone hein. Cahors Sud.
Fait la blonde.
Alors,
allons-y, j'y suis aussi, je connais bien aussi. Parce
alors,
que
bah, vas-y, présente-la.
Donc, alors, c'est un artisan brasseur qui est au départ, qui a fait l'INSA, qui a pas mal voyagé parce que il allait faire ses classes, on va dire, en Belgique, dans des pays de brasseurs, quoi, en Belgique, en Angleterre. Puis qui après est revenu en France et puis qui s'est dit pourquoi est-ce que moi je mettrais pas à mon compte et pourquoi je ne ferais pas ma bière. Et il est du secteur de Cahors, il est pas exactement de Cahors, ouais. il a monté sa brasserie à Arcambal au tout départ. Et puis là récemment, il s'est installé, il a pu avoir un petit terrain pour faire une belle brasserie,
ah ouais,
bien propre,
brasserie.
Quelque chose de vraiment, c'est joli, vraiment correct.
Quand on passe devant. Et alors il a choisi de faire de la bière très légère.
Très légère, oui, plutôt
pour... C'est marrant, peut-être un jour, soit on lui passera un coup de fil, soit on l'invitera, pour qu'il nous explique pourquoi ce choix, justement, d'une bière comme ça, très légère, très facile à boire, qui peut, parce que moi j'en connais, des gens qui boivent de la bière et qui disent, bon, bah ouais, mais la Ratz, c'est un peu léger, etc., ça tient pas dans la bouche,
c'est
voilà.
Le but de la bière, on
voilà,
pas,
voilà.
Côté désaltérant, hein.
Alors, mais je pense que ça vient peut-être aussi de son bagage.
Son bagage vers l'Allemagne et tout ça.
Voilà.
Ce qu'on appelle des pils,
c'est des pils. Voilà, voilà.
Avec un peu d'amertume et de la légèreté, et léger. Avec une bulle fine et puis surtout qui désaltère.
Ouais. Un truc pour dégraisser.
Plus que ça tient encore. C'est pas une bière qu'on boit pour avoir en fin de repas, par exemple. On va pas dire, je vais boire une Ratz en fin de repas. C'est pas une bière belge qui va faire 6, 7, 8 degrés. C'est vraiment quelque chose avec lequel on se désaltère.
Alors, en plus ça, il a sorti une série. Ces trois bières qu'on déguste sont entièrement bio aussi.
Eh ben oui, non mais voilà, c'est ça. C'est moi, je l'ai découvert à Biosol.
D'accord.
Cette bière. On l'invitera.
Et elle rentre au croque-chou.
Elle rentre au croque-chou.
Eh oui.
Ah ben voilà, si un jour vous allez à Verquières. Si un jour vous allez à Verquières, vous allez à Avignon, vous cherchez Verquières, vous cherchez le croque-chou, vous allez
sur Google, c'est bon.
Voilà, vous allez dire bonjour de notre part au cuistot. C'est le fils de Daniel. Il s'appelle Sébastien Fols. Il a eu un bip gourmand au Michelin 2012. Et ils sont. Je sais pas, je t'ai écrit sur ton site internet. Hein.
Moi,
je...
Ouais, mais parce qu'on relance tous les.
Par contre, le site internet, moi, je connais un mec qui en faisait. Il faudrait quand même que tu renouvelles le truc. Hein. Il est un peu pourri ton site. Alors,
il est bio.
Il se passe plein de choses au croque-chou. Allez leur rendre visite. C'est une très belle rencontre qu'on a fait ce soir avec Rémi aussi. Merci d'être venu, Rémi.
On ira
et c'est grâce à Rémi, notre illustrateur montalbanais. Ça débouchonne chez vous, ça bouchonne à Paris ou dans l'autre sens. Je ne sais plus, mais
merci.
On a débouchonné,
nous accueillir surtout.
Et
de nous faire confiance, parce que bon, je pourrais venir avec n'importe qui finalement, ça va. C'est,
ouais,
ça
enfin,
plutôt
nous
bien pour l'instant.
On prend pas trop pour des cons.
On n'a pas encore retourné le studio, donc c'est bon.
Fais gaffe quand même, fais gaffe. Voilà, merci Gaël, merci Pascal, merci Georges, merci Aurélien pour la partie technique de cette émission, merci Daniel.
Merci à vous.
Plaisir.
À vendredi.
Google, croque-chou. Pour le reste, qu'est-ce-qu'on-déguste.com et cfmradio.fr. Ciao.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Teco, des Côtes d'Olt et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons de Vali.